Pourquoi le principe d'identité, loi de l'intelligence, ne peut-il être transféré au niveau de l'être? N'est-ce pas au caractère, n'est-ce pas au contraire, parce qu'il est loi de l'être, que ce principe de non-contradiction, est la loi de la pensée? Même s'il n'est pas principe propre dans l'ordre de l'être, il peut être une conséquence de ce principe. Je crois que c'est la fameuse question du principe d'identité. C'est très difficile de savoir ce que représente le principe d'identité. Je présume que c'est allusion à certains passages sur le principe d'identité. Le principe d'identité, le père Garrigou-Lagrange dit A égale A. Principe d'identité. Vous comprenez, quand vous dites que A égale A, c'est pas du tout le principe d'identité. C'est dit textuellement, chez le père Garrigou, comme étant que c'est ça que le thomisme enseigne comme le principe d'identité. D'abord, il faut se demander s'il y a un principe d'identité, au sens fort. Si je prends principe, je ne crois pas. Je crois qu'on peut dire que l'attribution au niveau logique implique une identité qui se fait entre l'attribut et le sujet. Vous voyez qu'on est très loin du principe d'identité au point de vue métaphysique. On est au niveau logique. Il y a quelque chose de très important au point de vue logique, c'est l'attribution, qui n'est pas commode à bien comprendre. Mais c'est au fond quelque chose de très important quand vous dites ceci est, comment se fait l'unité du sujet et de l'attribut, du sujet et du verbe, du nom et du verbe, disons le nom et le verbe, c'est plus juste. Comment se fait l'unité, comment se fait l'unité profonde? Il y a une signification unique. Dans toute énonciation, il y a une signification unique, bien qu'il y ait des composés. Pierre est grammairien. Il y a une signification unique. Comment se fait cette unité? Elle se fait par le sujet. Elle se fait par le nom, qui est capable de réaliser cette unité avec le verbe. Et qui fait que le nom recevant le verbe va permettre une unité à l'intérieur de la complexité. Alors on peut dire qu'il y a comme condition sine qua non une identité entre le verbe et le nom. Autrement, il n'y aurait pas d'attribution au sens fort. Mais si je prends le principe d'identité par rapport à moi-même, c'est-à-dire par rapport à ce que je suis, est-ce que j'ai besoin du principe d'identité? Pas du tout. Dès que je découvre que la substance est principe selon la forme de ce qui est, la substance fait l'unité au niveau de la détermination de ce qui, de ce que je suis. Dès que je découvre que l'un est propriété de ce qui est, parce que ce qui est implique la substance et implique l'acte, je vois que toute réalité implique l'unité. Toute réalité existante implique l'unité. Il n'y a pas de principe d'identité. Pas un principe d'identité. Tout simplement l'unité d'un être. Alors je peux dire qu'au niveau logique, il y a une condition sine qua non qui explique toute attribution, et que s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas l'unité dans le nom, on ne comprendrait pas l'unité de l'attribution, l'unité de l'énonciation. Donc la condition sine qua non, il y a ce point de vue de l'identité. Je peux dire que au plan métaphysique, au point de vue de l'être, c'est la substance qui explique l'unité d'un être, et que c'est l'acte, d'une manière ultime, les deux aspects par où j'explique l'unité d'un être. Mais l'unité d'un être, ce n'est pas un principe nouveau, puisque c'est une propriété. Le principe d'identité n'exprimerait pas autre chose que je suis identique à moi-même. Être identique à soi-même, est-ce que c'est un principe? C'est tout simplement la possibilité que j'ai de penser que je suis multiple, cependant qu'il y a une unité en moi. Et que cette unité se ramène métaphysiquement à la substance ou à l'acte. Je ne dirai pas plus, ce n'est pas la peine. Nous allons continuer à essayer de réfléchir au point de vue critique. D'abord, je vous demande, y a-t-il des questions par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois, comme c'était particulièrement difficile et important, je vous demande, en y réfléchissant, vous avez essayé de comprendre comment la vérité, le problème de la vérité, dans les diverses modalités, comment le problème de la vérité pouvait se réaliser, se découvrir dans la saisie d'un principe, comment elle se réalisait dans la saisie d'une conclusion, comment elle se réalisait dans la saisie d'un jugement de sagesse. Oui, la vérité se dit de diverses manières. Elle se dit de diverses manières. Alors, vous avez d'une part ce qu'on appelle le vrai métaphysique, ontologique, et la vérité, propriété, perfection du jugement. C'est la première diversité qu'il y a. Puis à l'intérieur des perfections du jugement, vous avez des vérités diverses qui impliquent un certain ordre analogue à l'ordre des jugements, analogue à la vie de l'intelligence. Alors, je crois qu'on peut dire que la vérité ontologique et la vérité formelle représentent là une analogie de proportion, parce que d'un côté, vous avez le vrai qui touche l'être, et d'autre côté, vous avez le vrai qui est perfection de la vie de l'intelligence. Vous avez vraiment l'altérité complète. Ce n'est pas du tout au même niveau. Le vrai au niveau de l'être, c'est justement les différents degrés d'être et les différents degrés de vérité. Plus un être est parfait, plus il est vrai. C'est cette vérité-là que Heidegger aime bien, aletheia. C'est ça que ça veut dire, c'est l'être qui se manifeste. Puisque l'été se cache, aletheia, se dévoile. Alors, c'est la vérité qui manifeste, et c'est la vérité ontologique. Et pour Heidegger, c'est cette première vérité qui est fondamentale. Platon s'est trompé quand il avait regardé l'autre aspect de la vérité perfection de l'intelligence. Il considère que c'est dans le mythe de la caverne qu'il y a deux moments de la vérité. Un premier moment de la vérité ancienne parménidienne, donc on est encore en face d'une véritable métaphysique, ou alors on voit que la vérité est identique à l'être. Jamais Parménide dit ça. Parménide voit l'identité entre le legein, le noein et l'être, et il parle à ce moment-là de la vérité. Donc ça reste quelque chose de très très peu développé, mais il ne dit pas absolument que la vérité est identique à l'être. Mais on peut très bien concevoir qu'en effet, selon les degrés d'être, il y a des degrés de vérité. Puis alors, l'autre aspect de la vérité pour lui, c'est cette vérité qui s'est développée à partir de la connaissance chez Platon et chez Aristote. Ou alors la vérité qui se définit comme la conformité de l'intelligence connaissant avec la réalité. Et cette vérité qui est une conformité de l'intelligence avec la réalité n'est plus véritablement la vérité ontologique. C'est déjà quelque chose de très second. Et si je prends ces deux vérités, je crois qu'il faut maintenir les deux. Si je prends ces deux vérités, entre les deux, il y a autre. Puisque l'une regarde directement l'être, l'autre regarde directement l'intelligence. Donc, c'est tout à fait différent. Mais à l'intérieur même des vérités qui regardent l'intelligence, j'ai un ordre. Et donc, je serai en présence d'une vérité, d'une analogie d'attribution. Tandis que de l'autre côté, de proportion. Vous voyez ? Deux types de vérité, et c'est vrai, la vérité a toute la complexité de l'être. Alors, c'est tout à fait normal que vous trouviez une diversité plus profonde de la vérité ontologique et de la vérité formelle, comme on dit habituellement. Et puis, à l'intérieur de la vérité formelle, vous trouvez un ordre. Et le premier analogué, c'est la vérité du jugement d'existence. Et à partir de ce jugement d'existence, vous pourriez ordonner les diverses vérités. Vous voyez ? Ça compléterait ce que je vous dis là. Ça, c'est facile à faire une fois qu'on a compris. Vous n'avez qu'à le faire. C'est un très bon exercice d'ordonner ces diverses vérités. Vous voyez ? À partir du jugement d'existence. La vérité qui suit le jugement d'existence, c'est vraiment la vérité au sens le plus fort. Conformité de l'intelligence connaissante avec la réalité. Puis après, vous avez la vérité des saisies des principes, la vérité des conclusions, la vérité affective, tout ce que nous avons vu. Oui. Bon. La vérité du jugement d'existence, je vous l'ai dit en terminant, à ceci de particulier, c'est que, de fait, cette vérité, elle a un mode existentiel que n'a pas les autres vérités. Autrement dit, elle revient avec le jugement d'existence. Mais elle revient avec le jugement d'existence avec ce caractère particulier qu'elle implique de détermination. Quand vous dites, par exemple, ben je prends un exemple, dans toute réalité créée, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Je vous dis que c'est vrai. Vous êtes là en face d'une vérité qui est une conclusion d'un jugement de sagesse. Comment comprendre cette vérité? C'est en voyant les prémices de cette conclusion. Comme toujours, quand il s'agit d'une conclusion. Pour comprendre une conclusion et comprendre le caractère de vérité d'une conclusion, c'est pas la conclusion qui l'explicite directement en elle-même. Parce que toute conclusion dépend des prémices. Et donc, si toute conclusion dépend des prémices, la vérité de la conclusion dépend de la dépendance de la conclusion à l'égard des prémices. Oui. Donc, pour comprendre le caractère de vérité de cette affirmation, pour reprendre le raisonnement par lequel j'ai abouti à cette conclusion. Et donc je suis en face d'une vérité qui dépend des conclusions, qui est relative aux conclusions. Mais je suis dans l'ordre existentiel. C'est ça qu'il y a de tout à fait particulier quand il s'agit du jugement de sagesse. C'est qu'on est dans un ordre existentiel. Ce que je n'ai pas quand je regarde la vérité des principes. On pourrait regarder la vérité des propositions modales. La vérité des propositions modales au niveau critique. La vérité des propositions modales, il est nécessaire que, il est contingent que. Vous voyez que cette vérité est beaucoup plus complexe que toutes les autres. Parce qu'elle implique un mode. C'est pour ça qu'on dit proposition modale. Elle n'est pas une affirmation catégorique, directe, immédiate. Elle est une affirmation qui est toujours en dépendance d'autre chose. Et donc, si elle est une affirmation qui est toujours en dépendance d'autre chose, il est nécessaire que, il est possible que. Je peux être très attentif à la proposition qui suit, il est nécessaire que, ou être très attentif à, il est nécessaire. Et je mets l'accent sur la nécessité, sur la contingence, sur la possibilité, ou au contraire, je mets l'accent sur le contenu. Toujours deux choses différentes. Si, et c'est vrai que la proposition modale fait attention avant tout à « il est nécessaire que ». Alors je prends un jugement que vous connaissez bien et qui va nous aider à mieux comprendre ce que représente la vérité d'une proposition modale. Il est nécessaire qu'il existe un être absolu.
Un être premier. Acte pur.
Il est nécessaire que, voilà la proposition modale, C'est pas il existe un être absolu. Ce n'est pas la même chose. Il existe un être absolu.
Ceci, c'est la proposition habituelle
catégorique. Comme quand dit j'existe, je suis.
Mais ici, il est nécessaire que.
Vous voyez que ça modifie. Alors, où est le caractère de la vérité? Est-ce que le caractère de la vérité consiste dans la conformité de la réalité, il existe un être absolu vis-à-vis de cette réalité absolue? Je l'affirme. Et comme cette réalité absolue, je ne l'atteins pas directement. Je ne peux pas donc mesurer ce que je dis par rapport à cette réalité, puisque je ne la touche pas dans un jugement d'existence. Quand je touche la réalité avec un jugement d'existence, que je dis ceci est, alors je peux considérer que ce que je nomme est conforme à la réalité. À la réalité touchée, sentie, atteinte. À la réalité existante. Je peux le faire. C'est tout simplement le fait d'avoir distingué l'énonciation de la, l'énonciation qui est le contenu de ma connaissance, qui est le contenu de mon jugement, avec la réalité antérieure à ma connaissance, autre que ma connaissance, et mesurant ma connaissance. Donc c'est l'autre. Ici, j'implique le contenu de cette connaissance. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait un contact direct avec cette réalité existante. S'il n'y a pas ce contact direct avec cette réalité existante, je ne peux pas montrer comment ce que j'affirme est relatif, conforme à cette réalité absolue. Quand j'affirme, il existe un être premier, il existe un acte pur, la vérité de cette affirmation pourrait être directe si j'avais un contact direct avec cette réalité absolue. Avec cette première réalité absolue, avec la réalité absolue. Mais comme je n'ai pas de contact direct avec la réalité absolue, je ne peux pas dire que la vérité de cette affirmation, c'est la conformité de ce que je dis avec la réalité. De sorte que la vérité ici consiste en quoi? C'est qu'il existe un être absolu, il existe un être premier, acte pur, cela est nécessaire. Vous voyez bien. Cela est nécessaire. C'est ceci qui est pris comme une première affirmation. L'existence de l'être premier est nécessaire. Quand vous dites « il est nécessaire qu'il existe un être premier acte pur » ou lorsque vous dites « l'existence de l'être premier est nécessaire », est-ce que c'est la même affirmation? Il faut réfléchir 2 minutes. Hein. Parce que si je vous le dis trop vite, vous ne réfléchissez pas. Quand je dis « il est nécessaire qu'il existe un être premier, acte pur » ou quand je dis « l'existence de l'être premier est nécessaire », est-ce que c'est la même affirmation? C'est pas si commode que ça. Parce qu'on a peur de dire une bêtise, alors on ne dit rien. Il faut d'abord essayer de réfléchir sur le contenu de chacune de ces affirmations, pour essayer de voir si c'est la même chose. Quand je dis l'existence de l'être premier, l'essai de l'être premier est nécessaire, j'affirme la manière particulière d'exister de l'être premier. Ça me vient, sa manière particulière. Cet être premier existe de cette manière qu'il est nécessaire. Je ne peux pas dire j'existe d'une manière nécessaire. Je ne peux pas dire ça.
Tandis que je peux dire l'essai de l'être premier est nécessaire. Tandis que quand je dis il est nécessaire qu'il existe un être premier. Vous voyez ? La nécessité porte sur l'existence de l'être premier et pas sur la modalité de l'être premier. Alors c'est très curieux ça. Là je suis en face d'une affirmation catégorique, ce qu'on appelle une affirmation catégorique, un énoncé direct, qui porte dans son contenu sur la manière d'exister de l'être premier. Donc sur le mode d'exister de l'être premier. De l'autre côté, je suis en face d'une affirmation modale qui porte sur l'absolu de l'existence d'être premier. L'inversion de du mode. Intéressant, ça. C'est pour ça que ça vous déroute. C'est vrai que c'est déroutant à première vue, parce que c'est pas la même modalité. Ici, la modalité est du côté de l'affirmation. Ici, la modalité est du côté du contenu. C'est pas tout à fait la même chose. Le legein, le noël, si vous aimez mieux. Hein. Ici, vous êtes en face du legein. Ça vous aide à comprendre. Et puis, ici, vous êtes en face de l'aima. L'être. Cet être existe d'une manière telle qu'il est nécessaire. L'existence, l'essai de l'être premier est nécessaire. Donc, je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas. Je regarde au point de vue des formulations des deux. C'est ça qu'il faut comprendre avant de chercher la vérité. Quelle est la vérité de ces deux affirmations ? Là, il faut me demander si je peux changer l'une de l'autre. Quand je dis l'essai, l'exister, l'essai de l'être premier est nécessaire. Cette affirmation est une affirmation directe. C'est une affirmation directe qui porte sur le contenu, sur la manière d'exister de l'être premier. Donc sur l'aïman, sur l'être de l'être premier. Cet être premier, il existe d'une manière nécessaire. Tandis qu'au contraire, ici, c'est sur le legein. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Et cette manière particulière de dire implique un contenu qui, lui, porte directement sur l'aïmal et non plus le mode de l'aïmal. Sur l'être de l'être premier. Vous voyez, les modes sont inversés. C'est pour ça que c'est intéressant à voir. C'est intéressant parce que ça montre la souplesse de la vie de l'intelligence. Et vous êtes attentif à ce que nous disons, surtout quand il s'agit de certaines affirmations qui sont des affirmations ultimes. C'est quand même pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose de dire « j'existe » et de dire « j'existe d'une manière contingente ». C'est pas la même chose. Vous êtes tout à fait d'accord qu'il y a deux affirmations différentes. Hein. Il y a deux affirmations différentes. Je peux dire, quand je dis « j'existe », je pourrais dire « il est nécessaire que j'existe ». Est-ce que je peux dire ça ? Non. Je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire il est nécessaire que j'existe. Non. Je peux dire il est nécessaire qu'il existe un être premier. Et je peux dire l'existence d'un être premier est nécessaire. Je peux dire les deux. Mais ça se recoupe. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça se recoupe, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je me pose la question, quelle est la vérité de ces deux propositions ? C'est le droit, en fait, du critique de poser la vérité de ces deux questions. Non plus. J'ai vu précédemment, leur forme logique est différente. Ça, c'est sûr. Leur forme logique est différente. Est-ce que leur vérité est différente ? Un problème différent. La logique et la critique. C'est très intéressant de mettre en comparaison la logique et la critique. Et de prendre des problèmes où la logique et la critique se recoupent. Alors, quelle est la vérité de cette affirmation « Il est nécessaire qu'il existe un être premier » ? Je ne peux pas aboutir directement à la réalité absolue comme si je l'expérimentais et qui pouvait mesurer cette affirmation. Oui, si j'atteignais directement la réalité de l'être premier, la réalité de l'être premier serait la mesure de cette affirmation. Mais comme je n'atteins pas directement cette réalité d'être premier, elle n'est pas la mesure, puisque c'est un temps.
Directement. Donc elle ne peut pas être la mesure.
Alors, quelle est la mesure de cette vérité? La mesure de cette vérité, c'est de voir comment je suis contraint intellectuellement, comment mon intelligence est obligée de poser l'exister de l'être premier. Et l'intelligence est obligée de poser l'être premier dans la fameuse démonstration a posteriori, où partant de l'expérience, éclairant cette expérience par un principe, le principe de causalité finale, je pose la nécessité de poser l'être premier. C'est donc une conclusion. Une conclusion d'une démonstration. Et d'une démonstration a posteriori. La conclusion d'une démonstration a posteriori. Or, la vérité d'une conclusion dépend de la vérité des prémices. Or, les prémices sont quoi? D'une part, un jugement d'existence, dont la vérité dépend directement de l'expérience, et d'autre part, le principe de causalité, dont la vérité est saisie à l'intérieur même de la vie.
Vous voyez donc que la vérité de cette affirmation, il est nécessaire qu'il existe un être premier, est une vérité complexe, pas une vérité simple. Puisque c'est la vérité d'une conclusion qui dépend d'un jugement d'existence et qui dépend d'un principe. Donc, c'est pas du tout quelque chose de simple.
Et c'est pour ça que ça s'exprime, il est nécessaire qu'il existe. Pour mieux faire comprendre qu'il est nécessaire qu'il existe, cette affirmation, il existe, l'existence d'un être premier, est nécessitée par deux prémices, par deux affirmations.
Donc je suis là, si vous voulez, en présence de ce que représente cette conclusion tout à fait particulière, l'affirmation de l'être premier. Je pourrais prendre une autre affirmation,
analogue,
c'est-à-dire tout à fait différente, mais avec quelque chose de semblable. Je pourrais très bien prendre.
Il est nécessaire qu'il existe un intellect agent, un nous poietikos. Est-ce que ça fait mieux de le lire en grec, hein?
Le nous poietikos, ça vaut mieux. L'intellect agent, on pense tout de suite au bâton de l'agent. Là, ça va plus du tout. La canne de billard que vous revenez, n'est-ce pas?
Alors, le nous poietikos, c'est tout à fait différent. C'est
l'intelligence illuminatrice.
Eh bien, je peux dire, il est nécessaire.
Pourquoi je peux me demander la vérité de cette affirmation? Cette affirmation n'est pas un jugement d'existence immédiate, puisque je ne touche pas le nous poietikos. Il est posé en fonction d'une démonstration a posteriori. Et cette démonstration a posteriori me fait comprendre le caractère de vérité de cette affirmation. Et c'est toujours intéressant de mettre en parallèle ces deux grandes conclusions, l'une métaphysique, l'autre de philosophie du vivant. L'exigence de poser l'être premier, l'exigence de poser le nous poietikos, l'intellect illuminateur. Des deux côtés, je suis en phase d'une démonstration a posteriori. Et donc, ces conclusions dépendent nécessairement d'une démonstration a posteriori. Il est nécessaire que. Alors, c'est à se demander si toutes les démonstrations a posteriori, ce sont des démonstrations qui ont comme conclusion une proposition modale. Ça, ce serait intéressant au point de vue critique. Est-ce que toutes les démonstrations a posteriori, vous voyez bien ce que c'est qu'une démonstration a posteriori, hein? Il y en a combien qui savent ici ce que c'est qu'une démonstration a posteriori? Je dis ça parce que de temps en temps, parce que quand je emploie des mots barbares et que vous ne comprenez pas, vous devriez lever la main tout de suite en disant qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il y en a combien qui savent ce que c'est qu'une démonstration a posteriori? Qui lève la main?
Vous le savez là-bas? La démonstration a posteriori. Qu'est-ce que c'est? Il ne lève pas la main. Dans le fond. Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration a posteriori? Non, cela, mais juste en dessous. Oui, vous savez ce que c'est qu'une démonstration a posteriori? Non. Alors, levez la main, je dis que. Parce que je crois que c'est très important. On fait un cours ensemble, vous voyez? Alors, si on fait un cours ensemble et que j'emploie un terme que vous ne connaissez pas, je vous demande d'avoir la simplicité de lever la main et de dire, qu'est-ce que c'est? Si vous ne le savez pas, alors je continue, vous ne comprenez rien du tout. Vous grattez, oui, vous grattez de syllabes. Mais ce n'est pas ça, suivre un cours. Suivre un cours, c'est, ah, je ne comprends plus, démonstration a posteriori, qu'est-ce que c'est? Oui. Pourquoi? Je ne cesse de vous dire au début d'un cours, est-ce que vous avez des questions à poser? Je ne cesse de poser cela, parce que c'est très important. Vous voyez, c'est très important, c'est la seule manière de progresser. Alors, c'est évidemment, à chaque instant, il y a une main qui se lève, dire au bout d'un certain temps, pendant 10 minutes du début du cours, faites-le, puis après, peut-être un peu moins, mais... Si ça vous réveillez, vous voyez, parce que j'ai l'impression, à un certain moment, quand il fait lourd, qu'il fait chaud, la critique est dans, n'est-ce pas? Alors le ronron du sommeil s'installe, alors on gratte, mais la tête tombe dessus, n'est-ce pas? Démonstration a posteriori, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qui pourrait m'expliquer en deux mots ce que c'est qu'une démonstration a posteriori? Il y en a quand même dans la salle quelqu'un qui pourrait le dire. J'écarte évidemment... ceux qui sont déjà très avancés, mais ceux qui sont, oui, les assistants, on les laisse. Mais qu'est-ce que c'est qu'une démonstration a posteriori? Qu'est-ce qui peut me le dire? Nous l'avons vu, ceux qui ont suivi le cours sur l'existence de l'être premier, les voies d'accès vis-à-vis de l'être premier. Nous avons vu à ce moment-là la grande division entre la démonstration a priori et la démonstration a posteriori. Une démonstration a priori est celle qui commence par les principes. Une démonstration a posteriori, c'est celle qui commence par les effets. Par les réalités singulières. Il faut savoir ces choses-là. Il faut les savoir, mais comprendre que c'est deux types de démonstrations tout à fait différentes. La démonstration a priori qui commence par les principes propres est une démonstration qui aboutit à une conclusion scientifique. C'est ça que je veux faire avec vous, parce que c'est de la critique ce que nous faisons. Alors, il y a des propositions modales, c'est intéressant de voir comment elles naissent. Quand nous sommes en présence d'une démonstration a priori, nous sommes en face d'une démonstration au sens fort, qui fait connaître les seconds analytiques d'Aristote. Les secondes analytiques d'Aristote, je ne demande pas, il y en a combien qui les ont lues, parce que ça, c'est... Mais secondes analytiques d'Aristote, c'est une chose, si on veut vraiment entrer en philosophie, il faut avoir lu les secondes analytiques d'Aristote. C'est rude, c'est bien plus dur que ce que je vous dis là. C'est rude, mais il faut les lire. Ça aiguise l'intelligence. Alors, la démonstration a posteriori, elle donne une connaissance scientifique. Donc, ça aboutit à une conclusion scientifique, une conclusion nécessaire. La démonstration a posteriori. Aristote nous dit, saint Thomas reprit ça, c'est une démonstration imparfaite. C'est une démonstration imparfaite. Si c'est une démonstration imparfaite, vous comprenez qu'on a peut-être besoin de la modulation. Une démonstration imparfaite, elle n'a pas le même absolu au point de vue de sa conclusion. La conclusion d'une démonstration a posteriori, elle prendra des modalités différentes. Elle ne saisit plus immédiatement la conclusion d'une façon absolument nécessaire. Alors elle se conclut par une conclusion modale. Il est nécessaire que... Vous comprenez bien dire « il est nécessaire que » c'est beaucoup moins direct que dire
il existe un être absolu.
Pas tout à fait la même chose. J'espère que vous comprenez la différence entre l'affirmation directe, catégorique, la conclusion, qui aboutit directement à la réalité, ou au contraire l'aspect modal qui enveloppe. C'est pas pour noyer le poisson, mais ça enveloppe. Hein. Et la démonstration a posteriori est une démonstration qui reste imparfaite et donc qui n'a pas le même caractère de nécessité.
Elle a une certaine nécessité. Il est nécessaire que...
Mais voyez que cette nécessité, hein, quand vous essayez de comprendre ce que c'est qu'une proposition modale au point de vue critique, c'est ça qui m'intéresse ici, au point de vue critique, de voir qu'il est nécessaire qu'il existe un être au premier, c'est pas une affirmation directe. Ça porte sur « il est nécessaire ».
Ce qui montre bien que la démonstration a posteriori, voyez, est une démonstration qui n'a pas le même caractère scientifique et le même absolu, et qui pourtant est une démonstration. Donc si elle est démonstration, elle touche du nécessaire. Mais elle touche du nécessaire pas de la même manière. Elle ne touche pas, j'allais dire, le nécessaire de la réalité affirmée, mais elle touche le nécessaire de l'intelligence qui affirme cette chose. C'est pas la même chose. Je suis plus loin de la réalité affirmée par la démonstration a posteriori que par la démonstration a priori. Or, quand il s'agit d'un jugement de sagesse, tout le jugement de sagesse est toujours à partir d'une démonstration a posteriori. Il est nécessaire qu'il existe un être premier acte plus. Il est nécessaire. Et ici, il est nécessaire qu'il existe un intellect agent, un nous poietikos. Il est nécessaire que... Alors là, les propositions modales sont très importantes. Et quand je dis il est possible que, c'est que je suis parti à partir d'un jugement hypothétique. Et j'aboutis à « il est possible que » j'ai encore un jugement modal. Alors, ce serait intéressant de se poser la question, quel est le caractère de vérité d'une proposition modale « il est possible que » parce que c'est peut-être ce qui caractérise le plus les sciences dites expérimentales. Alors là, on entrerait dans tout un secteur très intéressant et très important à voir. Quel est le caractère propre des sciences expérimentales? Il est possible que, à la place de dire « il est nécessaire que », quand je dis « il est possible que », quel est le caractère de vérité qui affecte une affirmation comme celle-là? C'est pour simplement montrer qu'il n'y a pas de contradiction dans ce que j'ai affirmé. Pas plus. Il est possible que. Et quand je dis il est contingent, alors j'affirme que cette réalité que j'affirme peut disparaître. Oui, je reste à un niveau, il est contingent, un niveau qui n'est plus scientifique. Il est possible que je reste à un niveau hypothétique. Et dans le langage de Platon, quand je demeure dans un langage hypothétique, je ne suis pas encore à l'épistémé. Je ne suis pas encore à la science. La science réclame, il est nécessaire que. Mais comme c'est curieux et c'est intéressant, parce que c'est toujours se poser la question de la vérité. Quel est le caractère propre de la vérité de ces affirmations? Il est nécessaire, il est possible, il est contingent. Et je dois comprendre que ces propositions, de fait, possèdent une vérité, peuvent posséder une vérité. Mais ce sont des conclusions. Donc, leur vérité est toujours en fonction de ce qui est dit avant, les prémices. Et en fonction de la conformité des prémices. Quand je suis en face d'une vérité telle qu'il est possible que, je demeure devant une vérité qui reste uniquement... Le caractère de vérité de cela dépend de ce qui a été dit avant, mais le contenu de cette vérité demeure quelque chose qui est hypothétique.
Ah oui, ah oui, ça, c'est intéressant, les prémices de l'intellect. La constatation qui existe en nous, le point de vue de la représentation et de la signification. Ça, c'est le point de vue. C'est la constatation des choses. Puis ensuite, puisque vous voyez qu'il y a un passage entre les deux, puisque vous progressez entre les deux, il y a un passage entre les deux, alors vous posez la question de toujours, quand il s'agit de passer d'un ordre inférieur à un ordre supérieur, il faut nécessairement une causalité. La causalité du supérieur vient assumer l'inférieur. C'est plus le principe de causalité finale, c'est le principe de causalité efficient. C'est le principe de causalité efficient.
Je peux la question, 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 la question